Avant, c'est toujours un petit peu délicat pour les prédicateurs lorsqu'il s'agit de parler d'argent et que l'offrande passe juste après. Mais oui, ce matin, nous démarrons une série de trois prédications sur le thème des richesses et de la pauvreté. Lorsqu'il s'agit d'aborder ce thème en église, parfois j'entends de manière assez régulière que non, en France, c'est tabou, on n'en parle pas, on n'est pas en milieu anglo-saxon, on n'est pas aux États-Unis. Là-bas, c'est OK, mais ici, ça ne se fait pas. Alors, bien au clair sur le fait qu'il y a des différences culturelles. Mais je me posais la question, est-ce que c'est vraiment si tabou que ça en France? Je ne sais pas si en ce moment, sur les ronds-points, les questions d'argent soient si tabou que ça. Je ne sais pas si en ce moment, les questions du salaire de nos dirigeants est si tabou que ça. Je ne sais pas si vous allumez votre télévision et que vous regardez telle ou telle émission, j'ai pas l'impression que la question de l'argent soit quelque chose qui soit absente de diverses émissions. Je ne sais pas si dans l'entreprise c'est un sujet qu'on n'aborde pas, même dans les supermarchés, dans nos loisirs. En fait, des fois je me demande si le seul endroit où les questions d'argent seraient tabous serait en fait dans l'église. Il y a peut-être un risque à y voir quelque chose de trop bas pour l'Église, et nous serions spirituels et nous parlons des choses d'en haut, et puis les choses qui concernent les richesses, la pauvreté, l'argent, tout ça, ce serait se rabaisser d'une certaine manière d'aborder ces sujets-là. Mais je suis toujours interpellé de voir à quel point la Bible a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. C'est tellement un sujet récurrent que Billy Graham est allé jusqu'à dire: dis-moi ce que tu penses de l'argent, je te dirai ce que tu penses de Dieu. Alors bien sûr, c'est une citation comme ça qui est assez simplificatrice, mais qui dit bien quelque chose de la place de l'argent dans la Bible. Et je crois qu'en particulier, Jésus lui-même est celui qui parle le plus souvent de ces questions d'argent de tant de manières différentes. Et c'est ce que nous allons voir ce matin en prenant un texte dans Luc 16. Vous pouvez prendre dans vos Bibles si vous voulez suivre dans la deuxième partie du chapitre 16 de l'évangile de Luc. Mais d'une certaine manière, dans ce passage-là, on voit presque Jésus nous dire la même chose. Dis-moi ce que tu penses de l'argent et je te dirai ce que tu penses de Dieu. Alors nous lisons ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Et il s'écria: « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit: « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici, et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit: « Je te prie alors, père, d'envoyer Lazare chez mon frère, car j'ai cinq frères, chez mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit: ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le riche dit: non, père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham dit alors: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Jusqu'ici notre lecture. Jésus avait capté l'attention de son auditoire. Tout au long de ce qui est pour nous le chapitre 16, Jésus enseigne sur les questions d'argent et ça titille certaines personnes. On voit au verset 14: Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et se moquaient de lui. On voit que dans ces moqueries, il y a quelque chose qui les remue. Ils trouvent absolument inacceptable ce que Jésus est en train de dire sur l'argent. Et apparemment, Jésus ne cherchait pas à attirer les faveurs autour de lui parce qu'il continue précisément avec cette parabole, cette histoire de deux hommes que tout oppose et que Dieu, dans sa providence, met sur le chemin l'un de l'autre. Alors, que dit cette parabole ? D'un côté, nous avons un homme riche, extrêmement riche. Tous les détails de cette histoire sont là pour nous montrer sa grande richesse. Il a des vêtements hors de prix. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que ça signifie, mais ce n'est pas des vêtements de riche. On est plutôt dans la catégorie des vêtements royaux lorsqu'il s'agit de pourpre et de fin lin. Il est quelqu'un qui festoie quotidiennement. C'est la Bible de Sumer qui traduit sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Là aussi, manger et profiter de festins, c'est le privilège des riches, mais vivre avec des festins quotidiens, là, c'est le privilège de certains très grands riches. Même pour sa demeure, pour laquelle on n'a quasiment pas d'informations, mais il est dit que Lazare est placé devant le portail, et ce terme de portail, c'est vraiment l'idée d'une grande porte, plutôt quelque chose qui serait pour un temple ou un palais. En fait, cet homme riche, c'est presque un pléonasme. On devrait parler de, comme on dit maintenant, d'ultra riche. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, sur le port de Saint-Tropez, il y a des yachts, et c'est déjà, posséder un yacht, c'est déjà réservé à une certaine élite, si on peut dire. Et puis, il y a les yachts des milliardaires. Il y a les yachts des millionnaires et les yachts des milliardaires. Et ça peut nous paraître complètement étranger comme type de considération, mais pour eux, ça compte. Ils ne font pas partie des simples riches, mais des extrêmement riches. Et c'est un peu cette image qui nous est donnée avec cet homme riche. Et de l'autre côté, on a Lazare, l'exact opposé. Là aussi, ce n'est pas simplement quelqu'un qui serait dans une certaine pauvreté, mais dans une extrême pauvreté. Il est absolument démuni. Non seulement il est couché devant le portail, devant la porte, mais en fait, littéralement, il a été déposé là, ce qui laisse entendre qu'il n'est même plus capable de se déplacer. Il n'a même pas l'occasion d'avoir ne serait-ce que les miettes du festin de cet homme riche. Et l'image des chiens ici, c'est vraisemblablement pas une image de bonne compagnie, d'un gentil chien de compagnie, mais c'était plutôt des animaux qui étaient mal vus à l'époque, probablement des chiens errants avec tout ce que ça représente. C'est difficile pour nous qui avons les chiens et les chats comme animaux de compagnie de voir ce que peut représenter un chien dans une culture où c'est essentiellement des animaux errants. Je me souviens de ce que je pouvais connaître au Chili, où j'habitais dans une ville où il y avait énormément de chiens errants, et c'était pas un jeu. Il ne fallait surtout pas toucher les chiens parce qu'ils portaient un certain nombre de maladies et ils étaient dangereux. J'ai vu un jour dans une rue une meute de chiens arracher une partie du pare-choc avant d'une voiture qui roulait, et là on se dit que d'avoir des chiens qui s'approchent d'un mendiant pour lui lécher ses ulcères, ce n'est pas une image positive, mais particulièrement difficile. Et lorsqu'on arrive au verset 22, on a ce grand chamboulement, cette inversion des situations. On dit parfois que la mort est le grand égalisateur, que tout le monde est, nous sommes tous égaux devant la mort. On dit aussi qu'il ne sert à rien d'être le plus riche du cimetière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est mort, il y a une certaine égalité en termes de ressources qui s'installent. Mais en fait, Jésus va plus loin que ça dans ce texte. Ce n'est pas un nivellement des situations, au contraire, c'est un renversement total des situations. Le riche, jusque dans sa mort, est d'abord considéré comme riche. Lui, il a le droit à un enterrement, et probablement que toutes les personnes autour sont là, parlent de toutes les manières dont Dieu l'avait béni pendant sa vie, et parlant bien de lui. Et c'est significatif de voir que Lazare, lui, n'a pas d'enterrement. Simplement, il meurt, probablement seul. Peut-être que là encore, les chiens errants sont sa seule compagnie. Et c'est précisément au moment de leur mort que la situation s'inverse. Alors que Lazare n'a pas d'enterrement, il y a un ange qui vient le prendre et l'amener auprès d'Abraham. Et le riche, lui, ne peut rien faire d'autre que descendre au séjour des morts, là où il se retrouve dans des souffrances terribles. Tout ce que tout le monde voyait comme béni par Dieu se retrouve en fait sous le jugement de Dieu, et tout ce que toute la population, ceux qui passaient devant lui et devant Lazare, voyaient comme maudit de Dieu, au contraire, est porté par un ange auprès d'Abraham. C'est une grande surprise, et encore aujourd'hui, lorsqu'on lit ce texte, même en tant que chrétien, même si on l'a lu un grand nombre de fois, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer? C'est une grande surprise lorsque nous arrivons à cette partie du passage. Et que se passe-t-il à partir de là? Il y a cet échange intéressant entre cet homme riche et Abraham. Et c'est fascinant de voir que cet homme riche, même dans la mort, même dans le séjour des morts, même dans la souffrance, se présente toujours comme un homme riche. Il continue d'avoir cette arrogance et cette mise en avant de son statut social. Lui qui n'avait jamais aidé Lazare, considère normal de demander que Lazare vienne vers lui jusque dans le séjour des morts pour venir l'aider. Ça lui paraît normal. Et ça lui paraît normal que Lazare soit envoyé auprès de ses frères comme un messager spécial. Toute la société, tout le monde peut continuer de n'avoir que la Bible comme révélation de Dieu, mais ses frères, eux, par leur statut, ils méritent que quelqu'un leur soit envoyé pour qu'ils aient une révélation particulière de quelqu'un qui reviendrait d'entre les morts. Mais en fait, ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il s'est passé quelque chose de radical. Par sa mort, son argent n'a plus aucune valeur, il n'est plus capable d'aucun changement de sa situation. Maintenant, Lazare a tout ce dont il a besoin, et c'est maintenant ce riche qui n'est même plus capable d'avoir une seule goutte d'eau pour soulager sa souffrance. Alors que tout au long de leur existence, ils ont vécu à quelques mètres l'un de l'autre, et qu'il aurait fallu ne serait-ce que d'un geste, d'une parole de cet homme riche pour changer la situation de Lazare, maintenant ils sont séparés par un grand abîme, un gouffre qui ne peut être franchi. Lazare est placé définitivement et absolument dans le confort et dans la bénédiction de Dieu, et cet homme riche est placé dans la souffrance et face à la condamnation de Dieu. Alors que penser de cette parabole? On pourrait dire le message est simple. Les riches vont au séjour des morts, sont condamnés, et les pauvres vont auprès d'Abraham. Point. Bon dimanche à chacun. Alors clairement, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ce passage, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les commentateurs sont unanimes pour tout de suite, d'une certaine manière, nous rassurer, nous dire, mais regardez, regardez, Abraham était riche, et il est dans le camp des gentils, si on peut dire. Donc tout va bien, il y a au moins un riche avec Lazare, donc c'est que ce n'est pas aussi simple que ça, et ce n'est pas aussi simple que ça. Mais qu'est-ce qui justifie ce renversement? Qu'est-ce qui justifie ce renversement de situation à leur mort? Concrètement, cet homme riche, il ne nous a rien dit de ce qu'il aurait pu faire de mal. Il ne nous a rien dit de la source de sa richesse. Il ne nous a pas dit qu'il se serait enrichi de manière injuste. Rien n'a dit qu'il soit responsable de la pauvreté de Lazare. Et il se définit comme un fils d'Abraham, il appartient au peuple de Dieu. Qu'est-ce qui permet de justifier une telle condamnation? Alors peut-être, oui, il n'a pas été aussi généreux qu'il aurait pu être, il n'a pas secouru Lazare, mais est-ce que ça justifie cette situation? On a l'impression d'être dans une scène d'un jugement où l'homme riche serait jugé pour non-assistance à personne en danger simplement parce qu'il y avait des pauvres dans son quartier. Ça peut sembler assez extrême comme manière de présenter les choses. Alors il y a un premier élément d'explication qu'on trouve au verset 25 de notre texte. Je vous le relis. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi tu souffres. » Et même si c'est précisément cette explication qui peut nous paraître difficile ou étonnante, c'est en fait un thème qui revient régulièrement dans la Bible, dans les attentes du Messie, et puis en particulier dans l'évangile de Luc. On parle pour ce genre d'explication de grand renversement. Et cette idée de grand renversement revient régulièrement. C'était une attente première d'Israël, des Juifs, d'avoir un Messie, un envoyé de Dieu qui manifesterait la justice de Dieu, qui abaisserait les riches pour élever les pauvres. Il y a une attente d'inversion des rôles entre les riches qui oppressent Israël et les pauvres qui attendent le secours de Dieu. Je vais vous relire juste quelques versets du chant ou du poème de Marie lorsqu'elle sait qu'elle va enfanter Jésus, en Luc 1, verset 51. « Il a déployé le pouvoir de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasier de biens les affamés, renvoyer les riches les mains vides. » Et Jésus ne se distingue pas de cette attente, il confirme cette attente du peuple d'Israël. Toujours dans cet évangile de Luc au chapitre 6, dans ce qui correspond aux béatitudes qui se trouvent aussi chez Matthieu, il y a clairement cette idée de renversement. Je vous lis à partir du verset 20. Alors, levant les yeux sur ses disciples, il disait « Heureux êtes-vous, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. » Et quelques versets plus loin, ce qui n'a justement pas de parallèle avec l'évangile de Matthieu. Verset 24 « Mais quel malheur pour vous, les riches, vous tenez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes rassasiés maintenant, vous aurez faim. » Quel malheur pour vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et dans les larmes. Jésus ne se dissocie pas de cette idée de grand renversement. Au contraire, il a d'une certaine manière l'audace d'annoncer qu'il est une bonne nouvelle pour les pauvres, mais qu'il peut être une mauvaise nouvelle pour les riches. Alors ça peut être, comme disait mon prof d'Ancien Testament cette semaine, il y a des textes qui piquent. Je ne sais pas si ça va pour vous, je ne sais pas si certains regrettent d'être venus ce matin. J'espère pas. Restez au moins jusqu'à la fin, peut-être que ça s'améliore à la fin. Mais en tout cas, cette idée de grand renversement peut être déroutante. Pourquoi Dieu se mettrait nécessairement du côté du pauvre contre le riche? Pourquoi Dieu annonce qu'il interviendra pour inverser, pour faire ce grand renversement entre les riches et les pauvres? Un élément essentiel pour comprendre ce qui se joue ici, c'est de comprendre comment Dieu se présente à son peuple. Il se présente comme le roi juste et bon. Il se présente comme le roi qui vient apporter la justice, qui vient manifester son royaume de justice. Et face à son peuple, face à ceux qui sont dans la souffrance, face à ceux qui souffrent de l'injustice et de l'oppression, il se présente comme celui qui vient apporter son secours, sa consolation, en rabaissant les riches et en élevant les pauvres. Il faut bien voir ici qu'il ne s'agit pas du tout d'un enjeu de mérite. Il ne s'agit pas de dire les pauvres vont recevoir l'aide de Dieu parce qu'ils méritent et les riches, au contraire, parce qu'ils ne mériteraient pas. C'est simplement une manière de manifester la justice pour un peuple qui souffre. Ce n'est pas les méchants riches d'un côté et les gentils pauvres de l'autre, mais c'est un Dieu juste et bon qui vient manifester sa justice et sa bonté. C'est comme dans un tribunal. Si quelqu'un est exploité, maltraité et qu'il vient porter plainte, la question du juge n'est pas « Mais est-ce que cette personne qui porte plainte est méritante? Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce qu'elle fait du bien autour d'elle? Et c'est sur cette base-là que je vais rendre justice. » Non, un juge qui est juste, il va voir est-ce que l'injustice est réelle? Est-ce que cette personne souffre vraiment d'une exploitation, de quelque chose qui mériterait qu'il y ait un jugement juste? L'enjeu n'est pas la justice du pauvre, les mérites du pauvre, mais simplement que la justice de Dieu soit établie dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que Dieu se présente à nous, comme celui qui secourt les pauvres dans leur souffrance. Mais alors, est-ce que ça veut dire que c'est nécessairement une condamnation du riche? Est-ce que ce secours, cette consolation du pauvre, implique nécessairement que le riche soit condamné. Et si c'est le cas, pourquoi Abraham a pu s'en sortir et être du côté de ceux qui sont bénis par Dieu? Et je pense que c'est important de voir, et ça c'est vrai pour toute la Bible, lorsque Jésus, lorsque Dieu a ont des paroles dures comme ça, qui peuvent sembler à première vue d'être des condamnations dans lesquelles on ne peut pas sortir, systématiquement c'est en fait une mise en garde, un appel à la repentance, un appel à changer de comportement. Ce n'est jamais avec Dieu un enjeu de fatalité, il y a toujours une possibilité de changer. La bonne réponse devant Dieu n'est pas « mais si c'est comme ça, bah, c'est comme ça, on ne peut rien y faire ». Mais au contraire, Dieu, qu'est-ce qui doit changer dans ma vie? C'est en fait une des choses que cet homme riche a bien compris dans la situation de cette parabole. Il dit « envoie Lazare vers mes frères parce qu'ils ont besoin de repentance, ils ont besoin de changer radicalement ». Il a compris que si ses frères, tout en étant riches, changent de comportement, se repentent, alors il est possible pour eux d'éviter le même sort que leurs frères. Donc ce grand renversement n'est pas une condamnation des riches en tant que telle. En fait, c'est une condamnation des riches qui refusent d'obéir à Dieu, qui refusent de faire la volonté de Dieu. Si Dieu doit venir au secours des pauvres, c'est parce que les riches n'ont pas obéi à Dieu. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans toutes les Écritures. Et lorsqu'on voit justement Abraham est loué par Dieu et il est célébré dans toute la tradition juive comme celui qui est le riche, qui a été plein d'hospitalité, qui a été généreux, qui a cherché d'abord à faire la volonté de Dieu plutôt que de chercher à s'enrichir. Je suis frappé par l'exemple de Job. Dans toute sa défense au chapitre 31, il arrive à un point où il dit « mais si jamais il était venu quelqu'un de pauvre, d'orphelin, en difficulté, et si jamais je ne l'avais pas aidé, alors tout mon malheur serait légitime. Il serait légitime que je sois jugé. » Donc oui, on voit un certain nombre de riches être mis en avant dans l'Ancien Testament et d'une certaine manière dans le Nouveau, mais en tant que riches qui obéissent à Dieu. Et c'est quelque chose qui traverse toute l'Ancien Testament, c'est toute la réflexion d'Abraham de dire « ils ont déjà la loi et les prophètes ». Ce n'est pas une nouveauté. Tu étais au courant de la volonté de Dieu. Et je ne vais pas reprendre, on pourrait prendre un certain nombre de textes, mais je crois que ce qui est et ça se retrouve à la fois dans la loi où il y a un certain nombre de lois qui explique comment protéger les pauvres et aider les pauvres, et chez les prophètes, il y a un certain nombre de mises en garde pour ceux qui ne mettraient pas en pratique ces lois. Mais ce qu'il y a de plus significatif, c'est la manière dont Jésus résume la loi et les prophètes. Je lis en Matthieu 7, verset 12, « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » Lorsque Jésus veut résumer la loi et les prophètes, il dit tout simplement « Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. » Pourquoi le riche dans cette parabole est condamné? Parce qu'il n'a pas accompli la loi et les prophètes. Il n'a pas agi envers Lazare comme il aurait aimé que cet homme riche agisse envers lui-même s'il avait été dans cette situation. En fait, par son comportement, il montrait qu'il préférait le luxe, les festins, ses vêtements, sa demeure, à faire la volonté de Dieu qu'il connaissait. Il se définissait comme fils d'Abraham. Ce riche n'est pas condamné parce qu'il est riche, il est condamné parce qu'il n'a pas ouvert son cœur à Lazare, parce qu'il a préféré ses richesses au fait d'obéir à Dieu. Alors qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Peut-être que, je pense que pour la majorité d'entre nous, nous ne sommes ni dans l'extrême pauvreté de Lazare ou dans l'extrême richesse de cet homme riche. Mais je suis frappé de voir à quel point cette parabole est tout à fait actuelle et pertinente pour nous aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans tout ce que ça peut impliquer pour nous, mais on était notamment hier avec quelques jeunes à faire une maraude dans Paris et les Lazares ne manquent pas. Il y a en particulier dans une ville comme Paris, il est difficile de voir, d'oublier, pardon, qu'il y a encore énormément de Lazare autour de nous. Et lorsque je pense à ce Lazare qui aimerait simplement pouvoir avoir les miettes des festins du riche, ça me rappelait une discussion que j'ai eue avec quelqu'un il y a seulement quelques semaines. Elle me racontait qu'elle avait démissionné de McDo simplement parce que sa collègue qui venait d'être licenciée pour avoir refusé d'avoir mis de la Javel dans les poubelles. Tout simplement, McDo voulait être sûr qu'il n'y ait pas de sans-abri qui viennent vider les poubelles de leur McDonald's. Alors il était obligatoire de mettre de la Javel. Et cette collègue à elle, parce qu'elle a estimé que c'était immoral de mettre cette Javel, a été licenciée. Et donc la personne à qui je parlais a choisi de démissionner. Je trouve le parallèle et l'actualité de ce genre de situation frappante par rapport à la parabole de Jésus. Mais est-ce que nous sommes concernés si précisément nous ne sommes pas aussi riches que les propriétaires de McDonald's ou aussi pauvres que ceux qui vont cherchent à se nourrir dans leurs poubelles? En fait, je pense que le principe est tout à fait le même. Bien sûr, sans avoir des milliards, nous n'avons pas les mêmes ressources pour agir envers ceux qui ont des besoins, mais le principe est le même. Nous sommes des intendants des richesses que Dieu nous donne. Nous ne sommes pas les propriétaires entièrement libres de faire ce que nous voulons avec nos richesses, comme si ce serait absolument notre mérite de les posséder et d'en jouir pleinement. Mais nous sommes les intendants, ceux qui ont la responsabilité d'agir avec nos richesses comme Dieu le veut. Nous avons cette responsabilité de nous poser cette question. Si j'étais dans la rue, si j'étais cette personne qui est dans les marches de la station de la ligne 13, Porte de Saint-Ouen, qu'est-ce que j'aimerais recevoir de la part de ceux qui ont ne serait-ce qu'un peu plus? Qu'est-ce que j'aimerais trouver comme marque d'amour et de générosité de la part de ceux qui ont plus, sans nécessairement qu'ils soient millionnaires ou milliardaires? Nous sommes présentés comme des intendants, comme des gestionnaires de ce que Dieu nous donne. Je reprends quelques versets plus tôt dans le même chapitre, en Luc chapitre 16 à partir du verset 10, et Jésus présente les choses de la manière suivante. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle avec les richesses injustes, et dans ce chapitre c'est les biens matériels, l'argent, qui vous confiera les biens véritables, c'est-à-dire les richesses célestes? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, c'est-à-dire ce que Dieu vous a confié, qui vous donnera ce qui est à vous? La mise en garde est claire. Si nous sommes bénis par Dieu, si Dieu nous donne un certain nombre de ressources, de biens matériels et de ressources qui vont même au-delà des biens matériels, c'est aussi une responsabilité que Dieu nous donne de nous poser la question, mais comment est-ce que je peux manifester l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la justice de Dieu avec ce qu'il me donne? Comment je peux appliquer ce résumé de la loi? Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Et pour chacun d'entre nous, ça peut représenter des réalités très différentes. Nous avons des Lazares très différents. Il y a bien sûr les sans-abri qui nous entourent. Il y a les personnes qui viennent au repas chaud le samedi, qui viennent au colis le mercredi après-midi. Il y a peut-être notre voisin, des membres de notre famille. Il y a peut-être aussi des gens qui sont dans le besoin à l'autre bout de la planète. Et par des choses comme le parrainage, nous pouvons aussi être une bénédiction pour des Lazares jusqu'au bout du monde. Mais dans chacune de nos situations, Dieu nous pose la question. Quelle est notre gestion de toutes les bénédictions qu'il nous donne? Alors, peut-être ce matin, ça peut paraître comme un fardeau que je viens poser sur vos épaules, comme un fardeau, une responsabilité, un devoir qui serait lourd. Mais je pense que c'est important d'entendre réellement Jésus lorsqu'il nous présente la réelle perspective qu'il a sur ses richesses. C'est que lorsque nous partageons nos biens, lorsque nous partageons notre temps, lorsque nous partageons nos ressources, quelles qu'elles soient, on n'est pas en train de perdre les vraies richesses. on n'est pas en train de perdre les vraies ressources. Comme il le dit quelques versets plus tôt, on est en train d'abandonner des richesses injustes pour se voir confier des biens et des richesses véritables. Si on repense à cette parabole, qui est réellement riche ? En fait, si on attend suffisamment, c'est Lazare qui est vraiment riche, éternellement riche, infiniment riche. Le riche de la parabole, en fait, Dieu lui confie une forte somme d'argent pendant quelques années, mais celui qui reçoit la richesse véritable pour l'éternité, c'est Lazare. Alors lorsque nous abandonnons et lorsque nous partageons les biens matériels et le temps et toutes nos ressources avec ceux qui nous entourent, nous ne sommes pas en train d'abandonner les richesses véritables, même si c'est ce que peut nous renvoyer notre culture et d'une certaine manière n'importe quelle culture, mais nous sommes en train d'abandonner des biens qui sont temporels pour recevoir les richesses qui sont véritables. Encore dans ce chapitre 16, Jésus, en fait, dans la première partie du chapitre, parle d'un intendant qui aurait utilisé ses richesses pour se faire des amitiés, des amis. Et Jésus met en valeur et en avant cette personne, et il conclut au verset 9. « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles, lorsque ces richesses viendront à vous manquer. » Jésus nous rappelle que ces richesses, tôt ou tard, viendront à nous manquer. Tôt ou tard, notre compte en banque ne nous sera d'aucun secours. En particulier, personne n'est assez riche pour s'acheter une place au paradis. Ces richesses viendront à nous manquer, et c'est précisément en nous confiant dans les richesses réelles, les richesses véritables, dans ce que Dieu a pour nous, que nous pouvons trouver la vraie richesse. C'est ce que Pierre rappelle dans sa première épître lorsqu'il parle de notre salut. En 1 Pierre 1, verset 18, « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau qui est pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. » La vraie richesse, c'est d'appartenir à Dieu, c'est de recevoir le don qu'il nous offre et qui n'a pas de prix. Alors pourquoi se rebeller contre Dieu, contre Jésus, quand il nous présente sa volonté, juste pour s'accrocher à des biens qui n'auraient un intérêt pour nous que de manière partielle et temporaire? Si nous sommes prêts à refuser d'être des intendants fidèles, si nous sommes prêts, comme ce jeune homme riche, à nous accrocher à ses biens plus qu'à faire la volonté de Dieu, alors d'une certaine manière nous montrons qui est notre Dieu et que nous ne sommes pas réellement en train de servir le Dieu vivant et vrai. Et dans ce cas-là, d'une certaine manière, la condamnation est juste, pas pour le fait d'être riche, mais pour le fait de s'être rebellé face à la volonté de Dieu. À l'inverse, si nous reconnaissons que Dieu nous a bénis avec tout un tas de richesses, de biens matériels, de temps et tout ce qu'il sait nous donner, si nous nous reconnaissons comme ses intendants et ayant la responsabilité de partager le royaume de Dieu, c'est-à-dire de manifester sa bonté, sa justice, alors nous avons la bénédiction de savoir que nous sommes ses enfants, nous lui appartenons et nous sommes bien plus riches que n'importe quel milliardaire sur cette terre. Nos richesses ne nous feront pas défaut. Nous serons éternellement riches parce que nous possédons ce que Dieu nous a donné, et ce que Dieu nous donne dépasse tout ce qui peut être acheté avec l'argent et l'or. Alors je vais prier, je vais inviter Stéphane à nous partager un temps musical, et que ce soit l'occasion pour chacun d'entre nous de nous placer devant Dieu. Encore une fois, nous avons des situations tellement différentes, des ressources tellement différentes, des Lazares tellement différents devant nos portes, mais que nous puissions nous placer devant Dieu et pouvoir lui faire confiance pour ce qu'il veut faire avec les ressources qu'il nous donne et ce que nous pouvons manifester de sa bonté au travers des ressources qu'il nous a données. Seigneur, merci pour ta fidélité, parce que tu es un Dieu entièrement généreux, parfaitement généreux. En toi, nous ne manquons de rien parce que tu as acquis par par la mort de ton Fils à la croix, ce qui ne pouvait être acheté par personne. Nous savons que dans ta fidélité, nous avons des trésors célestes. Alors, Seigneur, permets-nous de nous donner cette liberté de vivre libre par rapport aux biens matériels que tu nous donnes et qu'ils soient des moyens de bénédiction entre nos mains, que nous soyons des intendants fidèles, prêts à partager les ressources que tu nous donnes pour ta gloire, pour que le monde voit quel royaume de justice tu veux instaurer dans nos vies et dans ce monde, Seigneur. Merci parce que dans nos doutes, dans nos inquiétudes, dans nos manquements et dans nos fautes, tu viens nous rencontrer, tu nous pardonnes, tu es toujours prêt à nous pardonner, toujours prêt à nous permettre d'aller de l'avant et de faire ta volonté, Seigneur. Amen.